On va ensemble ouvrir la parole de Dieu. On va aller dans le psaume 123, un petit psaume, 4 versets. Rien à voir avec le psaume 119. Le psaume 123, on pourrait le réciter par cœur. 123, c'est un peu plus compliqué pour le 119, quoique certains en seraient capables, ils ont une très bonne mémoire. Psaume 123, c'est un cantique des degrés, 123. Je lève mes yeux vers toi qui siège dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi, nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée des moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains. Amen. J'aimerais retenir quelque chose dans ce psaume, et ce sera le point central de notre message de ce matin, c'est de lever les yeux vers le Seigneur. Lever les yeux vers les Seigneurs. D'ailleurs, ce psaume commence par cela. Je lève mes yeux vers toi, pas n'importe qui, hein, qui siège dans les cieux, cela nous parle aussi de son autorité. Je lève mes yeux vers toi qui siège dans les cieux. Ici, d'emblée, celui qui a écrit ce psaume nous donne la solution au problème qu'il énonce à la fin de ce psaume quand il parle de mépris, quand tu parles des moqueries, des orgueilleux, du mépris des hautains. Eh bien là, il s'en recommande au Seigneur en levant les yeux vers lui. Et dans les situations par lesquelles parfois nous passons, nous n'avons d'autre recours que de tourner nos yeux vers le Seigneur. Les commentateurs de ce psaume ne sont pas d'accord quant à l'interprétation du verset 2, où il est écrit « Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. » Certains commentateurs ne sont pas d'accord quant à l'interprétation. Alors, bien sûr, il faut pouvoir recadrer l'esclavage du temps que ces psaumes ont été écrits et ceux qui ont eu lieu au 18e, 19e siècle. On a, c'est vrai, dans les siècles passés, eu une très mauvaise image de l'esclavage, mais dans l'esclavage de ce temps-là, codifié en plus par la loi de Moïse, c'était différent. Il y avait un devoir, une responsabilité du maître vis-à-vis de ses serviteurs, de ses servantes. Il devait aussi bien les traiter, en prendre soin, et il y avait bien sûr des responsabilités dans l'autre sens. Donc il y a quand même des choses différentes dans les relations que pouvaient avoir les maîtres avec les serviteurs. Certains de commentateurs y voient le fait que la main du maître était cette main qui donnait la subsistance, donnait de quoi pourvoir à ses serviteurs, à ses esclaves. Il avait cette responsabilité de pourvoir à tous leurs besoins parce que, en fin de compte, il n'avait pas d'autres ressources, pas d'autres possibilités de ressources que ce que pouvait leur donner leur maître, ce qu'ils voulaient bien leur accorder. Aussi, leurs yeux étaient portés sur la main de leur maître, de leur maîtresse, comme cela est écrit, parce qu'ils reconnaissaient qu'ils dépendent d'eux pour leurs besoins. Ainsi, nous reconnaissons, nous aussi, que tout nous vient du Seigneur. Alléluia. Aussi, nous nous tournons vers lui. Mais d'autres commentateurs disent, parce que ce psaume ne le précise pas, ils voient dans le fait que ses serviteurs et ses servantes portent les yeux, fixent leurs yeux sur la main de leur maître et de leur maîtresse, ils voient le châtiment que pouvait leur accorder le maître. Ils pouvaient utiliser le bâton. Avec la main, on peut faire beaucoup de choses. Hein. Avec la main, on peut donner, on peut aussi reprendre. Avec la main, on peut caresser, mais on peut taper. On peut faire tellement de choses avec la main. Des choses tellement contradictoires. Alors, deux commentaires, deux interprétations s'opposent l'un à l'autre. Et c'est vrai que le serviteur, la servante, qui savait qu'il pouvait, eh bien... avoir un coup de bâton, demander pitié à son maître. Ainsi, nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Et il est aussi biblique de dire, puisqu'on y a des textes qui se réfèrent à cela, que le Seigneur châtie ceux qu'il aime. Mais le Seigneur nous aime. Quand il le fait, nous le savons, que c'est pour notre bien. Quoi qu'il en soit, je pense qu'on peut, garder les deux interprétations parce que nous savons que le Seigneur veille sur ses enfants et en tant que bon berger, il peut mettre quelques petits coups de bâton sur sa brebis pour qu'elle revienne sur le droit chemin, mais il est aussi celui qui pourvoit. Donc on ne va pas ce matin opposer ces deux interprétations. Pour moi, elles sont toutes les deux justes. Nous dépendons totalement du Seigneur. Les postures de notre corps ont quelque chose à nous dire. On peut prier à genoux, ça a quelque chose à nous dire lorsqu'on se met à genoux par rapport à cette humilité devant le Seigneur. On peut aussi se mettre debout et lever les mains vers le ciel, tellement on est porté pour glorifier le Seigneur. Tout cela a quelque chose à nous dire, mais aussi lorsqu'on lève les yeux vers le Seigneur, ça a quelque chose à nous dire, cette posture du corps a quelque chose à nous dire. Lorsqu'on lève les yeux vers le Seigneur, c'est signe aussi d'ouverture. Nos yeux s'ouvrent et on se tourne vers le Seigneur. C'est un signe d'ouverture. On n'est plus replié sur soi-même, recroquevillé sur soi-même, tellement accablé par nos problèmes, tellement accablé par, ici, par les mépris, par les moqueries, tellement accablé par toutes sortes de choses qui nous accablent. On pourrait, et c'est parfois dans la tendance humaine, lorsqu'on est ainsi accablé, on se recroqueville sur soi, on se replie sur soi, on ferme les yeux. Mais là, c'est l'inverse qui nous est dit. On lève les yeux vers le Seigneur. Il y a là une ouverture vers le ciel. On n'est plus replié sur soi-même, mais on s'en recommande au Seigneur. Alléluia. Que son nom soit béni. Et là, c'est signe non seulement d'espérance, non seulement d'ouverture, excusez-moi, mais aussi d'espérance et de confiance envers le Seigneur. Il est celui qui siège dans les cieux. Il est au-dessus de tout ce qu'on peut appeler. Dans le psaume 121, il est écrit ceci au verset 1er, vous le connaissez par cœur. « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ?» On peut lever nos yeux vers les montagnes. C'est déjà très haut, les montagnes. Et ces montagnes peuvent représenter toutes nos difficultés. Parfois, on n'en voit pas le bout. Un mont laisse place à un autre bout, et puis on se pose la question, mais est-ce que je vais pouvoir gravir tous ces sommets qui sont là? Je lève mes yeux vers les montagnes, et quand on voit ces montagnes de difficultés, montagnes d'épreuves qui sont devant nous, on lève les yeux vers là, mais tout autour de nous, c'est des montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours nous vient de quelque chose de plus haut que les montagnes. Le secours me vient de l'Éternel. Alléluia. Nous levons nos yeux bien plus haut que les montagnes. Nous levons les yeux vers celui qui siège dans les cieux, au-dessus de tout notre problème, au-dessus de tous les êtres qu'on peut nommer sur terre et dans le ciel. Il est plus grand que tous les grands hommes de cette terre. Il est plus grand que tous les anges, que tous les démons, que Satan même. Alléluia. Il siège dans les cieux. C'est l'autorité suprême. C'est l'autorité suprême. Et nous nous en recommandons à l'autorité suprême, à celui qui est souverain, au Seigneur des seigneurs, au Roi des rois. Que son nom soit glorifié, car un jour tout genou fléchira devant lui. Nous tournons nos yeux vers le Seigneur, et quand on parle à quelqu'un, on se tourne vers lui pour lui parler, oui ou non, on se tourne vers cette personne, on regarde cette personne, et on sait qu'il y a un échange entre Dieu et nous, entre le Seigneur et nous, il y a cet échange, on tourne nos regards vers le Seigneur, parce qu'on sait qu'il parle à nos cœurs, nous pouvons lui parler, il y a un échange entre lui et nous. Mais disant ceci, il faut quand même avouer que ce n'est pas toujours si évident que cela de lever les yeux vers le Seigneur. Qu'est-ce qui peut nous empêcher de tourner nos regards vers lui? J'aimerais prendre peut-être 2-3 exemples. Tout d'abord, dans l'Évangile selon Luc au chapitre 13, l'Évangile selon Luc au chapitre 13, à partir du verset 10, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit : « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu, mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison, un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, « Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire ? Et cette femme qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait lié depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ? » Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Nous avons là une femme qui a un sérieux problème. Depuis 18 ans, cette femme est là. Et il nous est dit qu'elle est courbée. Quand on est courbé, on ne peut pas lever les yeux au ciel. Cette femme ne pouvait pas du tout se redresser. C'était difficile de vivre dans une telle situation, dans les affaires courantes de la vie, quand elle doit aller faire ses courses, lorsque peut-être pour manger, pour dormir, on s'imagine, on essaye de s'imaginer le quotidien de cette femme. Cette femme n'est pas une mécréante, on voit, elle est là dans la synagogue, ça veut dire que quand même, quelque part, elle a une certaine croyance en Dieu. On voit aussi que c'est une fille d'Abraham, donc elle est dans la descendance d'Abraham, c'est une juive. Mais son problème est toujours là. Depuis 18 ans, on sait, l'origine de son problème n'est pas un problème d'articulation, ce n'est pas un problème musculaire, certains sont courbés, parce que c'est un problème musculaire, un problème d'articulation ou autre problème. Ils ont peut-être eu un accident ou autre chose. Mais elle, son problème est d'ordre spirituel, puisqu'il nous est dit que cette infirmité, elle le devait à cause de Satan qui la tenait liée. Satan la tenait liée. Et il a fallu une intervention du Seigneur Jésus pour qu'elle puisse se redresser. Personne ne pouvait rien pour cette femme, la médecine de l'époque ne pouvait rien, et ce n'est pas le fait d'appartenir à la descendance d'Abraham qui a pu régler son problème, ce n'est pas le fait de se trouver dans une synagogue, un édifice religieux ne pouvait rien pour elle, mais celui qui a pu quelque chose pour elle, c'est le Seigneur Jésus, il a autorité sur toute chose. Il dit un mot et la chose arrive, il chasse les démons par sa parole, que son nom soit glorifié. Alléluia. Rien ne résiste au Seigneur. Il siège dans les cieux. Et ce jour de l'ascension que nous avons vécu ces derniers jours ici, eh bien, nous rappelle eh bien, que Jésus est élevé aux cieux et qu'il est assis. Il a été glorifié. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Et il a été souverainement élevé. Il siège dans les cieux et nos regards se tournent vers lui. Mais parfois, nous sommes comme courbés. Peut-être le fait d'être courbé est peut-être d'une origine, j'allais dire, démoniaque, comme pour cette femme. Et c'est vrai que sans être possédé, parfois, eh bien, le diable nous accable par toutes sortes de choses, des accusations qui sont là, des culpabilités. Il enfonce le clou sur certaines choses, il nous impose certaines choses, des fardeaux, et nous plions. Sous cela, même si on n'est pas à l'extrémité comme cette femme possédée, mais il faut reconnaître que parfois le diable s'acharne sur nous. Jésus dira à Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Et on le voit même avec Job. Le problème de Job, l'origine, on le voit au début du chapitre, au début du livre de Job, c'était une origine spirituelle son problème. Satan voulait s'en prendre à Job pour que Job finisse par maudire le Seigneur. Et nous sommes parfois, nous aussi, j'allais dire, sur la cible du diable. Et voilà, nous sommes comme criblés par toutes sortes de choses. Et nos épaules, eh bien, en prennent un coup. Je veux dire, c'est d'où l'expression d'avoir plein le dos. Hein. Voilà, on est courbé, hein. Et là, évidemment, c'est difficile de lever les yeux vers le ciel. Aussi, nous voulons bien réaliser que le Seigneur est au-dessus de tout et qu'il peut, eh bien, nous libérer. Ces murs ne peuvent rien faire pour nous, comme les murs de la synagogue ne pourraient rien faire pour nous. Ce n'est pas parce que nous sommes dans ce lieu que notre problème va se régler, mais c'est l'action du Seigneur qui peut faire la différence, qui peut nous redresser comme cette femme a été redressée. Aussi, nous voulons placer notre foi, notre confiance en Jésus qui a toute autorité. Il siège dans les cieux. Alléluia. Déposons à ses pieds tous nos soucis, tous nos fardeaux. N'a-t-il pas dit à la foule, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » C'est cet appel du Seigneur, il concerne bien sûr tous ceux qui ne le connaissent pas encore, mais il nous concerne nous aussi qui le connaissons. À bien plus forte raison, nous savons qui il est et nous savons qu'il peut nous enlever notre fardeau. Et alors, lorsqu'on n'a plus de fardeau, eh bien, on peut se redresser. Je lève mes yeux vers le ciel. Alléluia. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Il y a ceux encore qui pourraient être aveugles. Comment lever les yeux vers les cieux lorsqu'on est aveugle, aveugle spirituellement? Bien sûr, comprenons bien l'expression. Ou peut-être endormi spirituellement. On a parlé de réveil il n'y a pas si longtemps que cela, il y a environ un mois. Et c'est vrai, lorsque nous nous réveillons, la première chose que nous faisons, c'est d'ouvrir les yeux vers le ciel, et nous voulons ouvrir nos yeux vers le Seigneur, que son nom soit glorifié. J'aimerais avec vous lire dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Ainsi, ici, dans ce passage, nous sommes encouragés à avoir les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, c'est-à-dire celui qui est la source de la foi, qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection, il est celui qui développe la foi en nous. Avoir les regards sur Jésus. Qu'est-ce que le Seigneur a fait ? A-t-il simplement regardé la croix et rien de plus ? Non. Il nous est dit qu'en vue de la joie qui lui était réservée, il a regardé au-delà de la croix. Au-delà de la croix. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il savait qu'une joie lui était réservée. Et frères et sœurs, il y a une joie qui nous est réservée. Amen. Il y a aussi pour nous une joie qui nous est réservée. Un jour, nous allons quitter ce monde, fini les soucis, et rien que savoir cette joie qui nous est réservée par rapport à cette gloire qui nous attend, ces montagnes qui sont là et qui nous entourent et que nous voyons tout autour de nous, nous voyons au-delà. Nous voyons au-delà de tout cela parce que le Seigneur a prévu pour nous quelque chose de meilleur, que son nom soit glorifié. Alléluia. Non seulement il a prévu et bien pour notre vie ici-bas, eh bien, des moments où d'accalmie, il a prévu des choses, des temps de bénédiction, nous le savons. Mais nous ne sommes pas attachés aux bénédictions terrestres, nous ne voulons pas nous y attacher. Alors merci Seigneur pour ces bénédictions terrestres. Mais il y a autre chose de meilleur encore que cela. La joie qui nous est réservée. Nous voulons vraiment avoir les yeux sur notre Seigneur Jésus-Christ. Il est notre exemple suprême, notre modèle suprême. Aussi est-il écrit, « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » Lorsqu'on a l'âme découragée, on est courbé. Hein. Le psaume 123 parle de raillerie, parle de mépris, parle de moquerie. Et s'il y en a un qui a été méprisé, s'il y en a un qui a eu des moqueries, c'est bien le Seigneur. Le méritait-il ? N'oublions pas qu'il est le Saint, le Parfait, le Roi de gloire. Voyons l'humiliation qu'a connue le Seigneur. Écoutons ces moqueries qui nous sont rapportées dans les évangiles à l'égard de Jésus. On lui a même craché dessus. Cracher sur quelqu'un, faut le faire. Hein. C'est vraiment un signe de mépris. C'est une insulte suprême. D'autant plus dans certains pays, c'est encore plus. Et on a craché sur Jésus. Et il est monté sur la croix avec ses crachats, avec le sang, en écoutant toutes ces moqueries. On lui a enlevé son vêtement. En spectacle devant tous. Alors s'il y en a un qui a été rassasié de mépris, de moquerie de la part des hautains, c'est bien notre Seigneur Jésus. Mais il nous est dit dans d'autres passages qu'il s'en est remis à celui qui juge justement, il s'en est remis au Seigneur. Il n'a point fait de menace, mais il s'en est remis à son Seigneur et il a tourné les yeux vers son Père céleste. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Aussi, eh bien, notre Seigneur, eh bien, lorsque nous regardons à la croix, lorsque nous regardons l'attitude du Seigneur à la croix, qui même dans ces moments-là a porté ses regards vers son Père céleste, nous aussi, dans ces moments où nous sommes comme crucifiés, où nous sommes comme accablés par toutes sortes de choses, et lorsque on nous dit toutes sortes de choses qui viennent comme des coups de poignard dans notre cœur, nous tournons les yeux vers le Seigneur. Parce qu'il est celui qui peut venir à notre secours et il est celui qui nous a réservé une joie extraordinaire. Les épreuves du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Même l'apôtre Paul dit plus exactement, nos légères afflictions du temps présent ne sauraient comparées à cette gloire à venir. En parlant de ce sujet, comment ne pas citer ce verset 6 du psaume 34 que vous connaissez certainement par cœur. Psaume 34, verset 6, on le chante parfois dans un cantique. Verset 6, psaume 34, verset 6. quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. On pourrait aussi traduire que le visage est apaisé, calme. Il y a dans ce psaume d'extraordinaires versets écrits par David dans une situation difficile pour lui. Et il a été obligé de faire le fou à un moment donné, hein, pour sauver sa vie. Hein. Il s'est fait passer pour un fou, Paul. David, excusez-moi. Il s'est fait passer pour un fou. Et Paul, David est vraiment accablé, harcelé de toutes parts. Il est obligé de fuir. Mais il dira ceci: quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. C'est extraordinaire ce qui se passe lorsqu'on tourne nos regards vers le Seigneur. Ne nous trompons pas de direction, ceci, j'ouvre une petite parenthèse, parce qu'on peut se tromper de direction, mais c'est vers le Seigneur qu'il nous faut regarder. Rappelons-nous ce que Pierre a fait lorsqu'il a commencé à marcher sur les eaux. Tant qu'il a regardé à Jésus, pas de problème. C'est fort ce qu'il a fait, Pierre. Hein. Il a fait une démarche de foi, il a enjambé la barque, il a commencé à marcher alors qu'il y avait la tempête, mais il regardait à Jésus. Mais à un moment donné, ses regards se sont détachés de Jésus. Il n'a plus regardé vers Jésus, mais il a tourné ses regards vers les vagues, le vent, tout cela. Il a entendu tout le bruit que ça faisait. Et là, il a commencé à perdre pied, on pourrait le dire ainsi. Et il a commencé à s'enfoncer dans l'eau. Et voilà, ça aurait été la noyade assurée. Mais quand même, lorsque Pierre s'est enfoncé dans l'eau, quand même, il a eu ce réflexe de se tourner vers le Seigneur. « Seigneur, sauve-moi !» Vous voyez ce qui se passe lorsqu'on lève les yeux vers le Seigneur. À un moment donné, peut-être qu'on a dans notre vie, dans notre cheminement, et peut-être que quelqu'un passe par là en ce moment, peut-être qu'à un moment donné, eh bien, on a détaché le regard du Seigneur. On ne lève plus les yeux vers lui, on a commencé à marcher par la foi, à s'engager avec le Seigneur, mais tellement de choses se passent, et les unes après les autres, même les unes ensemble, que là on commence à perdre pied. Mais quand même, le Seigneur est un Dieu de grâce. Alléluia. Et lorsque Pierre a retourné les yeux vers le Seigneur et en le suppliant d'intervenir, le Seigneur a relevé Pierre. Il n'est pas trop tard pour lever les yeux vers le Seigneur. Alléluia. Mais tournons les yeux vers le Seigneur. C'est la bonne direction. Il nous a dit que Lot a levé les yeux aussi. Levez les yeux. Et quand Lot a levé les yeux, il n'a pas levé les yeux vers le Seigneur. Hein. Mais il nous a dit qu'il a levé les yeux et qu'est-ce qu'il a vu? Toutes les plaines fertiles là-bas, de la région de Sodome et Gomorre. Je vais faire du business là-bas. Je vais faire des affaires, je vais aller m'enrichissant. Donc il a choisi d'aller là, vers là. Il y a tellement de choses qui pourraient nous être proposées et qui nous appâtent, qui appâtent, j'allais dire, notre convoitise, et que nous sommes ainsi titillés au plus profond de nous-mêmes. Mais ces choses-là, elles sont éphémères. Regardons au Seigneur. Lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. De toute façon, si on tourne nos yeux vers ces choses-là d'ici-bas, c'est sûr que même peut-être après un temps d'euphorie, ça va se gâter. Ça s'est gâté pour l'autre rapidement. Hein. Ça s'est gâté pour lui. Mais lorsqu'on tourne vers lui les regards, non seulement on est rayonnant de joie, mais en plus, il est dit que le visage ne se couvre pas de honte. Amen. Oui, lorsque on est méprisé, lorsqu'on se moque de nous, comme dans le psaume 123, comme Jésus sur la croix, et en plus, on avait enlevé ses vêtements, quelle honte. Et parfois, lorsque on dit des choses comme cela sur nous, mais quelle honte qui est véhiculée sur moi. Mais celui qui siège dans les cieux est celui aussi qui nous justifie de toute manière. Si le diable vient nous accuser, nous nous rappelons une chose, c'est que nous avons un avocat auprès du Père. C'est Jésus-Christ le juste. Le péché, c'est notre honte, hein. Des fruits dont on rougit aujourd'hui. Mais celui qui nous justifie, celui qui nous pardonne, celui qui nous purifie de toute iniquité, c'est le Seigneur Jésus par son sang précieux. Et quand nous tournons nos regards vers lui, il efface notre honte par son sang précieux. Nous nous confions dans le Seigneur. Le diable accusé, le souverain sacrificateur Josué, on voit ça dans le livre du prophète Zacharie, parce que celui-ci avait des vêtements sales. Mais le Seigneur a dit que l'Éternel te réprime. Que l'Éternel te réprime. Et on voit que le Seigneur a donné ce nouveau vêtement symbole de cette justice que l'on trouve uniquement dans le Seigneur. Il est celui qui siège dans les cieux. Nous voulons nous rappeler de cela. Ne nous laissons pas accuser, ne nous laissons pas culpabiliser par tout un tas de choses. Et si, effectivement, quelqu'un a péché, parce que ça arrive, la parole de Dieu nous le dit, si quelqu'un a péché, au lieu de se laisser aller à la culpabilité, de s'enfoncer dans des dépressions ou dans je ne sais trop quoi encore, levons les yeux vers le Seigneur et là nous verrons que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Repentons-nous de nos péchés, confessons-le au Seigneur et il est celui qui nous pardonne, il est celui en plus qui nous en purifie. Oui, quand on tourne les regards vers le Seigneur, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Alléluia. Puissions-nous, frères et sœurs, lever les yeux vers le Seigneur. Il est notre maître. Il est notre Seigneur. Il est notre Sauveur. Nous lui devons tout. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété est en lui. Il déverse sur son peuple ses dons parfaits et ses grâces excellentes. Nous voulons regarder ses mains qui nous donnent les choses dont nous avons besoin, que son nom soit glorifié. Amen. On va ensemble remercier le Seigneur qui est fidèle envers son peuple. Oui, Seigneur, comme nous y sommes encouragés dans ce psaume 123, nous voulons lever les yeux vers toi. Nous voulons lever les yeux vers toi et te voir dans toute ta splendeur, en cherchant ta face. Nous voulons lever les yeux vers toi en nous rappelant que tu sièges dans les cieux, que tu es celui qui est sur son trône et que rien ne saurait te perturber. Tu n'es pas pris au dépourvu comme nous, Seigneur, et tu viens à notre secours quand nous sommes dans la difficulté. Nous voulons nous rappeler, Seigneur, que tu es notre maître et que nous dépendons totalement de toi. Tu es notre seul recours, notre seul secours. En toi, nous avons tout pleinement, Seigneur. À toi soit toute la gloire. Tu bénis mes frères et sœurs. Tu vois ceux et celles qui ont besoin tout à nouveau de lever les yeux vers toi. Tu connais leurs difficultés, leur désespoir peut-être même de s'en sortir, leur lassitude. Peut-être sont-ils courbés comme cette femme des évangiles, mais c'est toi qui peux les redresser, afin qu'ils puissent lever les yeux vers toi. Dis seulement un mot, Seigneur, et leur problème n'existe plus, nous le savons. À toi soit toute la gloire, Jésus. Béni soit ton saint nom, Seigneur. Merci, Seigneur. À toi la gloire et l'honneur, et la force et la puissance. Merci, Jésus. Amen.